Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, le retour de votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et je suis très heureuse de vous retrouver donc après cette pause estivale pour parler de l'actualité tennis. Aujourd'hui, nous retrouvons bien sûr Arnaud Di Pasquale. Salut Arnaud.
Salut Anne. Salut Laurent.
Salut.
Et pour l'accompagner, la plume du tennis sur Eurosport, mais pas que, j'ai bien sûr nommé Laurent Vergne. Salut Laurent.
Salut Anne, salut Arnaud, salut tout le monde.
Ça fait hello.
Très longtemps que je n'avais pas fait Deep Impact, trop longtemps.
Ouais, c'est vrai, tu nous as boudé.
Un peu, ouais.
Bah, on revient pour un bel épisode, alors j'espère, tous les trois. Nous sommes à moins d'une semaine de l'US Open, quatrième et dernière levée du grand chelem de la saison. Et l'on va tenter de déblayer ensemble les enjeux de cette US Open qui s'annonce riche. Mais avant cela, nous allons revenir sur un grand moment de tennis vécu sur Eurosport dimanche soir. La finale épique de Cincinnati entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, remportée en presque 3h30 par le Serbe. Nouvel opus au sommet entre ces deux-là, deux rivaux dont les retrouvailles sont toujours explosives. Alors après cette nouvelle démonstration de force et de talent, l'US Open va-t-il se résumer à un duel entre ces deux-là? On tentera de répondre à cette question. Il y aura également la stat de Constance, notre partenaire du compte Twitter Jeux 7 et Mat, et puis l'œil de Deep sur un Français en forme pour compléter ce programme. Je vous rappelle que le podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueurs sont prêts? Alors Deep Impact, c'est parti! Et l'on va démarrer, messieurs, donc avec cette finale dantesque dans la fournaise de Cincinnati entre le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz et l'homme aux 23 titres du Grand Chelem Novak Djokovic. Arnaud, tu as eu la chance de commenter cette finale remportée en 3h23 par Djokovic au thème d'un scénario épique, hein, d'un niveau de jeu exceptionnel. Est-ce que pour toi, on peut dire que c'est le plus grand match déjà de cette année bien entamée? Et quels sont peut-être les ingrédients qui font presque à chaque fois de ces rencontres entre Alcaraz et Djokovic des matchs d'anthologie?
Alors, écoute, j'ai du mal à les hiérarchiser en fait. Donc, je laisserai le soin à Laurent de s'en occuper. C'est lui, l'encyclopédie. Mais non, mais attends, tu reviens Petit remède. Non, mais c'est lui, l'encyclopédie, il va pouvoir comparer par rapport à d'autres. Moi, en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est un moment complètement fou. On a vécu avec. On imaginait, parce qu'on sait très bien que quand il se joue, en général, ça fait des étincelles. Et là, ça n'a pas loupé une nouvelle fois. C'est le scénario, en fait, qui a été complètement dingue aussi. En fait, c'est ça, en fait, moi, ce qui m'a un petit peu bluffé. C'est-à-dire que. Il y a quand même balle de match pour Alcaraz au deuxième. Il y a le coup de mou en fait de Djoko. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur le coup de mou. Et je pense que ça a dû parler. Il y a eu des interruptions à chaque fois. À chaque fois il est sorti, il a le droit. Hein, mais c'est vrai que je trouve qu'il a bien cassé le rythme en fait d'Alcaraz à un moment. Et ça a fonctionné. Et c'est l'expérience aussi. Et je ne sais même pas s'il le fait consciemment, mais en tout cas, ça, j'ai l'impression que ça a un petit peu joué quand même, parce qu'il débreak assez rapidement au deuxième. Et puis ensuite, la suite, on la connaît, mais c'est complètement hallucinant. Et puis le niveau de jeu, le nombre de coups gagnants, est-ce que c'est une rivalité qui est en train de s'installer probablement? Combien de temps ça? C'est le point d'interrogation, parce que bah, ça va dépendre de Djoko, hein, évidemment. Mais quel régal de voir deux joueurs évoluer à ce niveau. C'est fou, en fait, c'est surtout ça, moi, qui me bluffe. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui jouent en demi-volée, c'est la qualité de frappe des deux côtés. Du fond du court, ça va à la volée parce qu'ils essaient de trouver des solutions. Dès qu'il y a une ouverture, ils la chopent. Tout est complètement hallucinant quand même, hein, vraiment. Et Alcaraz, après, a un jeu vraiment spectaculaire, ce qui fait que c'est très fun à regarder parce que c'est un vrai spectacle, c'est un show. Il y a des points stratosphériques quand il est pris, qu'il arrive quand même à la remettre et qu'il tire le passing. On ne sait pas dans quelle position il arrive à faire des choses complètement, complètement dingues. Donc
Et sur des
voilà,
points
mais
décisifs.
sur des points très importants, très souvent, c'est jamais terminé. Mais Djoko, c'est un peu pareil, c'est juste un peu moins spectaculaire, mais c'est complètement hallucinant la manière dont il a réussi quand même à contrer les frappes. Enfin, moi, il faut aussi se focaliser sur ce qu'a produit Djoko. C'est vraiment impressionnant la manière dont il a réussi à revenir, à recoller, à tenir et à l'emporter. Après, j'ai une question et ça, je la pose. Laurent pourra peut-être dire ce qu'il en a pensé aussi. Est-ce que sur la fin, quand même, Alcaraz qui disait c'est un nouveau, enfin, je suis prêt comme si c'était un premier match de tournoi, est-ce que quand même ça n'a pas un peu pesé tous les matchs précédents en trois manches, en tout cas, voilà, à partir du milieu du troisième, est-ce que physiquement quand même, même si c'est un monstre, même si il est très explosif, est-ce qu'il n'est pas un tout petit pont en dessous par rapport à ce qu'il aurait pu faire avec moins d'heures passées sur le terrain? Voilà, c'est une petite question que je pose quand même.
Ouais, en tout cas, j'ai trouvé que c'est presque fou parce que je me rappelais qu'il y a un petit peu d'écart en âge entre les deux. Djokovic était un peu au-dessus physiquement dans le dernier set. Alors, ils avaient chacun quelque chose à gérer sur la dimension physique. Djoko, le fait qu'il ait joué en night session toute la semaine, et je pense qu'il a été quand même un peu tétanisé physiquement, et ça l'a un peu abruti physiquement, cette chaleur. Il faisait très très chaud. Il n'était pas tout à fait habitué, donc je pense qu'il a eu du mal. Et à mon avis, c'est la raison de son énorme coup de pompe qu'il a au début du deuxième. Et en revanche, sur la durée, effectivement, j'ai trouvé qu'Alcaraz piochait un petit peu physiquement à la fin. Et à mon avis, Djoko était, j'allais dire, bien au-dessus. Il était vraiment au-dessus dans le troisième. Mais l'autre est un tel monstre d'engagement, de courage. Et c'est un tel compétiteur qu'il a failli arracher quand même ce troisième set. Mais globalement, sur la deuxième moitié du match, je trouve le résultat plutôt logique, même si ça se joue à rien. Et on est passé quand même pas loin d'avoir un match presque décevant, parce que le premier set était pas mal, mais pas non plus extraordinaire, mais c'était du très bon tennis. Mais à partir du moment où Djoko se fait breaker dans le deuxième, et où physiquement on a l'impression qu'il est vraiment très très mal, il y a 7-6, 7-5-4-2, je crois. Et bon. Deux jeux de plus de service d'Alcaraz et finalement il ne serait pas resté grand-chose de cette finale. Et puis ça a basculé, Djoko est revenu et on a eu ce qui pour moi en tout cas, j'ai pas fait des recherches sur toutes les finales de Masters 1000, mais pour moi c'est la plus belle finale de Masters 1000 depuis au moins une dizaine d'années et je pense même peut-être depuis qu'on a abandonné le format 3-7 gagnant en finale de Masters 1000, c'est-à-dire en 2000.
Au-delà du scénario, tu parles du niveau de jeu,
Ben,
des
les
deux.
deux, tout, je pense qu'il faut tout, c'est-à-dire le niveau de jeu qui a été remarquable et par moments exceptionnel, notamment dans le troisième set, même si les deux joueurs étaient fatigués, ils sont allés chercher d'autres choses. Et Mats Wilander me dit souvent que pour lui, un très grand match de tennis, c'est pas que la qualité de jeu et c'est même pas forcément le plus important. Lui, ce qu'il aime, c'est d'assister à un combat. Voilà, le tennis, c'est la boxe sans le sang, comme on dit. Et on a besoin de ça. On a besoin presque de ce corps à corps qui donne une autre dimension au spectacle, au-delà de la pureté et de la qualité tennistique en elle-même. Et je crois qu'on avait vraiment ça quand même. Ça, en plus, ça a duré 3 heures. Je crois que c'est 3h49 la durée.
Ouais, c'est ça.
Ah, je me suis. Oui, j'avais un petit peu réduit le temps.
T'en as eu trop, Anne, tu t'en voulais beaucoup. Mais donc, ouais, pour moi, c'était vraiment. Je pense que c'est le match de l'année. La finale de Wimbledon était remarquable, mais. C'est toujours dur de juger à chaud, mais là, même avec 2 jours de recul, j'ai toujours la même impression et j'ai l'impression d'avoir assisté à un match rare quand même. Je pense que c'est la naissance d'une rivalité et même s'il n'y a que 4 matchs, donc ça paraît fou de dire ça, mais c'est pas forcément la quantité qui fait la nature et l'importance d'une rivalité en tennis. Borg et McEnroe se sont joués que 14 fois. Il y a bien des joueurs qui se sont joués plus que ça et qui n'ont pas laissé une trace commune aussi importante. Donc,
Et là, c'est les combats qu'il donne, enfin
c'est ça,
justement qu'il
c'est
propose à chaque
la
fois.
dimension du combat à chaque fois.
C'est cette
Et
haine
ça.
de la défaite qui les réunit.
Ah, exactement, ouais. Je pense vraiment que c'est leur plus gros point commun. Mais comme c'était ce qu'avait en commun Nadal et Djokovic, et même avec Federer, parce que même s'il a une expression corporelle, il avait un body language qui était un peu plus neutre, qui faisait moins guerrier sur le court, il avait cette même haine de la défaite. Et je pense qu'Alcaraz fait un bien fou à Djokovic, et inversement, mais peut-être surtout dans ce sens-là.
Ouais.
Parce que mine de rien, Djoko aujourd'hui, il est quand même orphelin des deux joueurs qui étaient à son niveau et au niveau desquels il était, évidemment Federer et Nadal, et retrouver aujourd'hui, pour la dernière partie de sa carrière, enfin, j'imagine que c'est la dernière partie de sa carrière, un champion, plus qu'un joueur, un champion comme Alcaraz, et ce qu'on avait tout de suite senti chez l'Espagnol, c'est-à-dire ouais, cette dimension-là, quoi. Ce côté ultra ultra compétiteur, ce refus permanent de plier, de perdre. Là, il est vraiment au niveau des trois autres dans ce domaine-là. Et je pense que c'est une bénédiction pour Djokovic. Peut-être que ça lui coûtera quelques matchs et quelques titres. Ça lui a coûté Wimbledon, mais en termes d'envie, de continuer à se battre comme ça sur le court, je pense que c'est exactement ce qu'il lui fallait maintenant à 35, 36 ans maintenant pour aller chercher et garder ce qu'il a vécu pendant 10, 15 ans avec Federer et Nadal.
Ouais, est-ce qu'il ne trouve pas chez les autres joueurs en plus,
Non,
c'est il a
clairement
trouvé
pas.
un joueur à sa hauteur pour se challenger lui-même avec encore déjà 23 titres du Grand Chelem, 39 Masters 1000 maintenant, mais ça le pousse quoi.
Là,
Je pense que.
aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ces deux joueurs et le reste du monde. Quand ils jouent comme ça et qu'ils évoluent, enfin, et c'est marrant, j'en parlais avec Arnaud Clément, et on se disait ça, quand on les voit dans la dimension physique, dans l'impact, dans ce qu'ils. Dans l'intensité, l'engagement, et même après, techniquement et tactiquement, enfin, la manière dont ils arrivent à jouer aussitôt en frappant aussi fort, en jouant aussi vite, en enlevant du temps constamment à leurs adversaires, en trouvant tout le temps les solutions et les réponses aux problèmes posés, on a l'impression qu'ils sont deux à pouvoir le faire. Il y a eux et les autres, en fait, vraiment. On a un Zverev, on a un titre des Tsitsipas, on peut avoir des Medvedev qui jouent très bien, mais c'est pas la même dimension quand même.
Non, c'est pas la même
Je
chose
crois que c'est
et
pas pareil.
je pense que la différence, c'est que les autres joueurs, enfin les autres top joueurs en tout cas, sont capables, par exemple, de bousculer un Djokovic au top sur un set, peut-être deux. On regarde la finale de Roland-Garros contre Casper Ruud, il lui rentre vraiment dedans au début. Sauf qu'à un moment, quand ça bascule, on sait que ça bascule définitivement et que c'est terminé. Alors que quand il joue Alcaraz, ça va basculer par moment, de son côté, de l'autre, mais en revanche, on sent que d'un côté comme de l'autre, ce n'est jamais terminé. Parce qu'ils sont différents.
Ouais, mais tu sens que ça peut, enfin, tu sens que ça peut fléchir à tout moment. Tu sens qu'ils ne peuvent pas le tenir, quoi, contre les deux, tu vois.
Mais
Mais...
peut-être je pense à un Runeux qui se rapproche un petit peu d'Alcaraz dans ce côté pas définitif, quoi. Il s'accroche jusqu'au bout avec pas le même talent et pas la même expérience encore à ce niveau-là,
En
mais
tout cas,
peut-être
pour
que
l'instant,
il
oui,
tend vers ça.
c'est vrai qu'il tend vers ça, il l'a déjà montré, mais déjà, je pense qu'il ne peut pas encore le faire, peut-être sur toutes les surfaces et en permanence, la différence avec Alcaraz. Et c'est quand même pas encore tout à fait aussi constant.
C'est pas installé c'est pas du tout,
Non,
enfin,
non,
c'est
non.
moins installé. On le
À un
sent,
échelon
il y a des phases,
inférieur. Mais
bien
peut-être
sûr.
qu'il peut devenir, parce qu'il est encore extrêmement jeune, hein, c'est pareil, hein, on commence à oublier qu'Alcaraz n'a que 20 ans. Et ce qu'il fait à cet âge-là, ce qu'il a déjà fait, je pense que par exemple, Nadal, Djokovic et Federer étaient bien moins forts que lui sur certains plans. Je pense que mentalement, par exemple, Djokovic, c'était un peu plus sinusoïdal à 20 ans. Il était déjà fort, mais ce n'était pas tout à fait la même chose. Federer à 20 ans,
Non.
c'était pas ça encore. Nadal avait
C'est pas
peut-être cette
fini.
dimension physique et mentale déjà. Mais tennistiquement, il avait encore des progrès à faire. Donc je pense qu'il est incroyablement complet. Et puis cet engagement, cette passion qu'il met dans le jeu, on l'a vu, le gars, il a quand même gagné Wimbledon le mois dernier. Et là, on le voit pleurer parce qu'il a perdu une finale de Masters 1000. Donc c'est quand même assez fou cette intensité qu'il apporte au jeu.
Et il n'est pas loin de ne pas arriver en finale quand même, hein,
Mais c'est ce que
aussi.
j'allais
C'est-à-dire
dire.
qu'il
Et il est
joue
sur
pas
le
bien.
fil toute la semaine, il joue pas bien et
Honnêtement,
tout à coup,
il joue pas son
peut-être
meilleur
face à
tennis.
Djokovic.
C'est ça qui est hyper fort. Moi, c'est ce qu'il faut surtout mettre en avant. C'est-à-dire que s'il s'en sort, c'est grâce à son état d'esprit, à son engagement, grâce à cette espèce de positivité. Enfin, de tous les instants, c'est dur. C'est-à-dire qu'il se balle de match hein, contre Urquiza.
Ouais, il, puis
Donc, il n'est pas loin de la
Purcell,
sortie,
il
quoi.
n'était pas hyper
Non, mais tous
à
ces
l'aise non
matchs.
plus. Donc il a vraiment, il en a bavé. Et c'est vrai qu'il est quand même à un point de gagner ce Masters 1000 en battant Djokovic en finale, alors que c'est
Il a élevé son niveau
probablement
de jeu.
pas son. Oui, c'était pas le même Alcaraz en finale, clairement. Mais c'est ce que c'est... quand je disais tout à l'heure qu'ils se font mutuellement du bien, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vraiment, et c'est la nature de ces duels-là et de ces rivalités-là. Ça fait ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Alors, il y aura peut-être un ou deux matchs où ils vont jouer et où l'un des deux passera au travers. Hein. C'est tout à fait possible. Mais le fait qu'ils se jouent qu'en finale ou alors en demi avec quasiment une tête de finale comme à Roland-Garros fait que presque naturellement, ça les pousse à sortir leur meilleur tennis. En tout cas, le meilleur de ce qu'ils peuvent sortir à ce moment-là et même un petit peu plus parce qu'il y avait de la fatigue dimanche, mais ça n'a quand même pas vraiment impacté la qualité de ce match.
On a parlé de l'instinct de tueur de ces deux-là et surtout de Djokovic. Ça va nous amener à la statistique de Constance du compte Twitter Jeu 7 Mat qui vient démontrer un petit peu plus la force mentale de Djokovic dans les moments décisifs. Depuis le début de la saison 2007, 8 finales de Masters 1000 se sont disputées comme à Cincinnati au tie-break décisif sur 142 tournois et 6 d'entre elles, 6 sur 8 donc, ont été remportées par Novak Djokovic. Ce qui montre à quel point il est fort dans ce registre-là. Il y a eu par exemple Montréal en 2007 face à Roger Federer, une finale qu'il remporte 7-6, 2-6, 7-6. Il y a eu face à Nadal à Miami, à Shanghai face à Juan Martín del Potro, à Indian Wells face à Roger Federer encore une fois, ça c'était en 2014. Et donc cette année à Cincinnati, les deux joueurs qui l'ont réussi aussi, c'est Andy Murray. À Miami face à David Ferrer en 2013 et puis Juan Martín del Potro face à Roger Federer à Indian Wells en 2018. Ça avait été un sacré match là aussi, hein, remporté 6-4, 6-7, 7-6 par l'Argentin. Messieurs, ça montre quand même que on en a déjà parlé hein, sur sa capacité à remporter les tie-breaks et donc les derniers points, des derniers sets, des derniers moments de ces grands matchs, c'est là où il a encore un petit avantage sur un Carlos Alcaraz, peut-être, non?
Il y avait eu presque l'anomalie de la finale de Wimbledon où il perd le tie-break du deuxième alors qu'il avait gagné le premier très facilement. Et il le vendange un peu ce tie-break. Et c'est vrai que je pense que c'est un des très rares tie-breaks qu'il a perdu cette saison. Et là, il gagne 5-7, 7-6, 7-6. Il gagne les deux tie-breaks. C'est pas un hasard. Et ça aussi, c'est très fort quand même parce qu'il a rebondi après son échec en finale de Wimbledon contre Alcaraz. Et peut-être qu'il y a pensé à ces deux tie-breaks quand on commence le tie-break du deuxième, à ce tie-break de Wimbledon. Mais non, c'est lui qui a repris la main. Il les a souvent mieux démarrés. Dans le tie-break du dernier set, il n'est jamais mené. Alcaraz ne mène jamais, pas une seule fois, alors que c'est lui qui sert en premier. Donc oui, dans ce domaine-là, je pense que c'est quand même un de ses gros, gros points forts parce que des tie-breaks dans des finales comme ça, quand le niveau de jeu est très élevé et que c'est très, très serré. À peu près sûr d'en avoir à chaque fois. Donc oui, c'est très très bon pour lui et ça peut que lui faire du bien pour d'éventuelles retrouvailles en finale à l'US Open. C'est pas fait, mais je dirais pas que c'est probable, mais en tout cas c'est vraiment très très possible qu'on revoie ces deux-là en finale.
Après, il arrive, je ne sais pas si, mais visuellement, je trouve que c'est vraiment impressionnant et c'est probablement un des seuls, un des seuls, quand on l'observe et qu'il est dans sa bulle, dans son état de concentration pour retourner au moment important, il est imperturbable, hermétique à tout ce qui se passe. C'est-à-dire que tu le vois sur son visage, dans son positionnement, je trouve, alors avec Alcaraz et quelques-uns, enfin on cite tout le temps les mêmes, mais c'est celui qui arrive à le mieux gérer ses émotions dans ces moments-là et à sortir son meilleur tennis dans ces moments-là. Mais il crée ces conditions, tu as l'impression qu'il se met dedans, c'est-à-dire qu'il est dans une bulle et il peut plus rien se passer. Et il a beau s'énerver, activer son clan hein, de temps en temps, on l'a vu là sur cette finale encore, très nerveux par moment. En revanche, là, dans ces moments-là, il arrive à se retrouver totalement et à être pleinement dans son tennis et dans son plan de jeu. et à sortir encore une fois ses meilleures frappes, c'est ce qu'on dit. Et ça, depuis toujours, et c'est pour ça qu'il en est là, c'est pour ça qu'il a 23 titres de Grand Chelem, c'est pour ça qu'il a 39 maintenant, donc Masters 1000. Bon, c'est vertigineux, et puis c'est surtout pas terminé quand on le voit jouer comme ça, avec cette fraîcheur, cette envie, et puis et je suis convaincu que le coup de boost là, que lui donne Alcaraz, il a encore envie de montrer que c'est le patron, et ça c'est génial, parce qu'il lui fallait probablement un gars comme ça. Il vient de le titiller et lui dire, t'es bien gentil, maintenant il faut que tu laisses ta place. Et là, mais surtout quand on voit physiquement ce qu'il est capable de faire à son âge, bah, il tient, il fait plus que de tenir la distance. Et oui, moi je mets ça comme Laurent sur un coup de chaud légitime, hein, bien entendu, son petit coup de mou. Mais pour le reste, à tous les niveaux, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est cet état de concentration. Moi, c'est quand même, il n'y en a pas beaucoup, hein, qu'on voit comme ça.
Bah, qu'il arrive à atteindre alors que juste avant, il était dans l'énervement, il arrive à gérer ses moments, à changer tout à coup, à se mettre dans un état d'esprit complètement différent. C'est là-dessus que là.
Il était nerveux à la fin aussi
Ah
quand
oui.
il sert pour le match. Le jeu est très très long, il dure près d'un quart d'heure. Alcaraz finit par débreaker et il sert très 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 mal. Donc je lui fais deux doubles et je pense, j'ai pas la stat, mais il passe très peu de premières. Donc vraiment, même quand on est Novak Djokovic, on peut être rattrapé par la nervosité. Mais ce qui est très fort derrière, c'est qu'alors qu'il est mené 6-5, il fait un jeu impeccable pour arracher le tie-break et derrière il est au-dessus. Donc. Ils sont pas infaillibles ces joueurs-là, mais en revanche, ils ont une faculté à effacer le négatif qui est absolument hallucinante. Ils se relèvent quasiment de tout, quoi.
Et c'est ce qui va nous amener à nous poser la question en vue de cette US Open qui démarre dans une semaine. T'en as parlé, Laurent, on a du mal à imaginer comment ces deux-là, qui étaient déjà en finale l'un contre l'autre à Wimbledon il y a un mois et demi, ne pourraient pas se retrouver à Flushing Meadows en finale le 10 septembre prochain. Surtout qu'on a vu, hein, Djokovic, il retrouvait les États-Unis après 2 ans d'absence. Donc il y avait aussi un côté revanchard là-dessus. Hein, il vient gagner Cincinnati, il va retrouver donc l'US Open qui démarre lundi 28 sur Eurosport avec beaucoup d'envie, j'imagine. 2 ans après sa finale perdue face à Daniil Medvedev, à 36 ans, ça fait 5 ans qu'il a plus remporté ce titre américain. Il a que 3 titres à l'US Open sur ses 23 grands chelems. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous voyez, alors évidemment, les scénarios, il peut toujours se passer quelque chose, mais qui pourrait contrarier
Surtout à New
cette
York.
finale? Oui, surtout à New York, c'est le grand chelem où il y
Ouais.
a eu le plus de surprises, qui a échappé le plus d'ailleurs aux 3 et puis avant aux 4 monstres du jeu. Quelqu'un qui pourrait venir perturber ce scénario attendu. On a vu un Medvedev moyen sur la tournée américaine. Un Sinner qui a eu son déclic en Masters 1000, mais qui est peut-être pas encore au niveau en grand chelem, il y a des outsiders que vous voyez capables de le faire, d'empêcher cette finale.
Bah, tu les as cités, hein, je pense, hein, les
Ouais.
principaux. Yannick Sinner, ça peut. Il était tout près l'année dernière, mine de rien. On se souvient de ce quart de finale contre Alcaraz. S'il le gagne, derrière, c'est Tiafoe et Rude. On ne saura jamais, c'est de l'Uchronie, mais il était finalement pas si loin peut-être de sa première victoire en Grand Chelem. Moi, c'est plutôt le contexte général. L'US Open, c'est un peu le tournoi où, souvent, ça ne se passe pas comme prévu. C'est quand même le tournoi où Nadal et Federer ont réussi à se rater une bonne dizaine de fois. Ouais, c'est quand même assez dingue. Tu l'as dit, Djoko n'a pas gagné depuis. Alors, il a été. Il y a un abandon en 2019 contre Wawrinka. Ensuite, il y a son exclusion en 2020 contre Carreño Busta. Cette défaite en finale contre Medvedev, alors qu'il jouait pour le Grand Chelem l'année d'après. Et puis, l'an dernier, il n'était pas là. Donc, ça n'a jamais été un tournoi facile pour lui. C'est encore plus vrai, je pense, depuis quelques années, depuis qu'il a retrouvé, parce que 2018, quand il bat Del Potro, c'est vraiment au moment où il reprend la main sur le tennis mondial. Mais derrière, il a gagné au moins 2 fois partout, sauf à l'US. Donc, ça peut être plus compliqué. Alcaraz va être tenant du titre, numéro un mondial. Est-ce que ça peut jouer? À mon avis, non, pas du tout. Mais il a beaucoup donné quand même ces dernières semaines aussi, donc on va voir. Et puis On a l'impression, je pense que c'était le seul tournoi du Grand Chelem, par exemple, où on a eu en 2014 des demi Djokovic-Nishikori et Sidic-Federer, et où ça débouche sur une finale Sidic-Nishikori. Ça, je pense qu'on ne pouvait pas le voir ailleurs. Donc voilà, c'est l'US, c'est Flushing, il peut se passer beaucoup de choses. C'est ce qui fait le charme et ce qui rend excitant ce dernier majeur de la saison. Maintenant, honnêtement, ils ont passé plus d'une année pas à s'éviter, mais à se manquer, Djokovic et Alcaraz. Hein, on n'arrêtait pas de le dire depuis leur match à Madrid en 2022. Ah, quand est-ce qu'ils se rejouent? On a tellement envie de voir ce match-là. Et puis là, bah, les trois derniers tournois où ils ont été alignés ensemble, Roland, Wimbledon et Cincinnati, ils se sont joués trois fois, deux fois en finale, une fois en demi. Donc la logique, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, ils se sont peut-être encore plus au cours de cet été, l'a installé au-dessus du reste de la mêlée. Il va vraiment falloir des circonstances particulières, ou que l'un des deux connaisse un problème, ou qu'un joueur sorte un match absolument hallucinant pour qu'on rate cette. Ce serait un peu la belle en Grand Chelem après Roland-Garros et Wimbledon.
Ouais. Moi, après, au-delà de tout le contexte sur les outsiders ouais, qui ont été cités, je vois quand même un Djoko plus constant, plus régulier, plus fort à un niveau de jeu très élevé. Un Alcaraz que je peux encore imaginer avoir
Sur le
quelques faits.
fil.
Et perdre avant. Voilà, plus, voilà, si je vois un Djoko plus costaud quand même, et peut-être que j'ai ces matchs en effet là avant la finale en tête hein, d'Alcaraz. Donc tu sens quand même qu'il est fragile, qu'il passe pas loin, qu'à un moment à ce point-là, enfin, il peut se retrouver à perdre quoi. Et contre un bon adversaire. Et pareil, s'il enchaîne en grand chelem, alors c'est bien physiquement, c'est OK, c'est un colosse, on est d'accord, il est capable de tenir, mais à un moment, tu le payes quand même. Et là, il était peut-être pas loin, même s'il est tout jeune, tout frais, qu'il peut les enchaîner, que dans la tête, il se sent invincible, probablement. Personne ne l'est. Et voilà. Mais après, ouais, s'il arrive à retrouver, enfin, à rejouer tout simplement comme il a joué cette finale sur l'US Open, bon, je ne le dirai pas à ce moment-là. Mais j'ai trouvé que c'est. Voilà, je vois un Djoko plus costaud quand même, globalement. Mais c'est l'expérience, c'est plein de choses, hein, probablement. Donc c'est aussi pour
Ouais,
ça.
je pense que tu as raison, effectivement. Alcaraz est peut-être potentiellement plus vulnérable contre plus de joueurs
C'est ça.
que Novak Djokovic. Honnêtement, Djokovic a son top
Oui, il
sur
a cet
dur.
ascendant.
Oui, et puis alors il y a quand même le facteur X Medvedev. On sait que vraiment sur dur, quand il est bon, il est plus que bon. Il est très fort et il peut même être le meilleur. Le problème, c'est que paradoxalement, depuis. La saison sur Terre, où il avait gagné à Rome, avant de se crasher à Roland. Mais c'est vrai qu'au printemps, il était très fort et ça, on se projetait déjà un petit peu vers l'été, vers cette tournée américaine sur dur, qui est un peu son jardin quand même.
Mais oui.
C'est là où il avait vraiment explosé au plus haut niveau en 2019. C'est là où il gagne son seul tournoi du Grand Chelem. Mais là, il y a quand même plus de questions que de certitudes pour Daniil Medvedev. Donc, c'est un facteur X pour moi. S'il se retrouve, s'il est à son meilleur niveau, il est capable de battre Alcaraz et Djokovic sur dur. Mais c'est quand même un gros point d'interrogation aujourd'hui. Voilà, mais rappelez-vous, l'année dernière, Tiafoe, hein, la manière dont il éclate à Flushing, il avait été un vrai personnage. Est-ce qu'il aura trop de pression cette année? Ou est-ce qu'au contraire, de retrouver ce cadre, ce volcan dans le Queens il fait partie de ces joueurs qui aiment ce genre de contexte, donc, mais ça reste quand même très en dessous, évidemment, de ce qu'on a vu quand même à Wimbledon en finale, de ce qu'on a vu là en finale à Cincinnati. Donc, il peut se passer des choses, mais il va falloir quelque chose de presque anormal, ou de la part de Djokovic et Alcaraz, ou de la part d'un de leurs potentiels adversaires, pour qu'on n'ait pas droit à cette finale, dans 3 semaines.
En tout cas, comme les Nadal Federer, les Djoko Federer, Djoko Nadal et tout, on a envie d'en revoir là. Là,
Ouais, on
après
se
ce qu'on
plaindra
a
pas,
vu
ouais,
cet
c'est sûr.
été, là, mais après Wimbledon, après là, cette finale, c'est terrible, mais on attend presque ce match avec impatience et beaucoup moins les autres finalement. Même s'il peut y avoir des super matchs, là, c'est ces deux-là qu'on a envie de voir s'affronter.
Ouais, non, c'est sûr. Mais ça, c'est le raisonnement logique qu'on a avant le tournoi. Mais je ne sais pas si Medvedev est dans la partie de tableau de Djoko et qu'il sort un match ahurissant, qu'il le bat 7-6 au cinquième. On pleurera pas sur une finale Alcaraz-Medvedev. Et inversement, si Medvedev sort, devait sortir Alcaraz et jouer Djoko. Donc, c'est le tournoi aussi qui dictera l'intérêt plus ou moins grand de l'affiche de la finale. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, avant que ne commence ce tournoi, je pense qu'on a presque tous envie de revivre une troisième finale de suite après celle de Wimbledon et de Cincinnati, parce que c'est la quasi-garantie, alors, sauf si un des deux est vraiment diminué, vraiment fatigué, mais c'est la quasi-garantie d'avoir un moment ultra excitant et probablement un grand moment de tennis.
Oui, alors c'est vrai que si on se dit que Alcaraz sort avant parce qu'il est fatigué, parce qu'il fait une contre-performance, la finale aura moins d'intérêt parce que contre n'importe qui d'autre, comme vous l'avez dit avant, Djokovic sera ultra favori.
Bah comme à Roland, regarde, Roland, enfin, on espérait la demi Alcaraz-Djoko. Et même si on voulait croire que Casper Ruud serait capable, sinon de battre Novak Djokovic, en tout cas de le bousculer, de lui faire mal, on y croyait quand même qu'à moitié. Et ça a duré 5 jeux, voilà, le temps qu'il mène 4-1, puis après c'était terminé. Donc il est probable que si. C'est surtout vrai d'ailleurs si c'est Djokovic en finale contre un
C'est
autre
ça.
qu'Alcaraz. Puisque comme Arnaud le disait, il y a peut-être plus d'adversaires potentiels capables vraiment d'inquiéter Alcaraz plus que Djoko. On risque d'avoir une finale plus ou moins à sens unique. Donc c'est une raison de plus d'espérer une finale entre les deux.
Est-ce que Djokovic a cet ascendant en Grand Chelem que n'a pas encore Alcaraz quand même?
Oui, puis cette aura. Alcaraz, il est encore frais. Donc tu vois, quelqu'un comme Jannik Sinner, il a déjà battu Alcaraz, il sait qu'il peut le faire. Quand tu te prends des peignées contre Djokovic depuis 5 ans, bientôt 10 pour certains, je pense que c'est pas le même rapport quand même que certains peuvent avoir à Carlos Alcaraz, même s'il est ultra fort et s'ils savent que ce sera très compliqué. Mais Djoko, je pense, a une dimension, une présence encore différente de par tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il représente.
Mais c'est aussi le niveau de jeu qui est plus fluctuant encore chez Alcaraz, contrairement à Djoko, qui est beaucoup plus stable, très haut. Moi, c'est aussi pour ça, évidemment, qu'il y a l'ascendant psychologique qu'il a sur tous les joueurs, de par son palmarès, son expérience, enfin, tout ça, je suis d'accord, mais et il les a tous, il a des ratios plutôt favorables contre chacun en général, donc évidemment, mais c'est plus en termes de niveau de jeu. Il peut y avoir quand même quelques failles chez Alcaraz qu'on ne retrouve quasi jamais chez Djoko. C'est
Surtout, surtout quand tu avances dans les grands chelems, quoi. Quand
ça.
tu prends
Il est
Djoko en
toujours plus
quart, en
fort, toujours
demi, au
plus
final.
injouable. Il n'y a pas de faute, il ne donne rien, il joue tôt. Enfin, c'est d'une précision à chaque fois chirurgicale, la qualité de retour. Alors après, on ne met jamais son service en avant parce que ce n'est pas le plus impressionnant, mais quand il se met à servir, il a plein de points gratuits hein, sur son service parce qu'il place super bien la balle, qu'il enchaîne. Enfin, donc, moi, c'est aussi là-dessus, hein. Mais ça, c'est normal. Et Alcaraz, probablement, va acquérir tout ça avec le temps aussi, hein. C'est
C'est vrai que
sûr.
si tu joues Djoko dans une demi ou une finale de Grand Chelem, tu sais qu'il ne va rien te donner. Contre Alcaraz, tu as encore un peu plus d'incertitude parce qu'il en a joué beaucoup moins, qu'il peut être un tout petit peu moins constant. Donc ça rajoute à la difficulté. Ouais. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui fait que il n'y a probablement pas pire que de jouer Novak Djokovic que
Avec, ouais, avec un
une
tennis
fin de
plus à
Grand Chelem.
risque aussi. Tu vois, Alcaraz, il prend
Ouais.
plus de risques, hein. Il envoie plus des cartouches de toutes ses forces, donc il en rate quand même. Il en
Ouais,
rate.
après c'est quand même pas mal maîtrisé hein, ce qu'il fait.
Non, mais attends, mais attends. Mais, on essaie de trouver des failles. Sinon, c'est parfait, c'est injouable. Mais bien sûr, je trouve ça injouable et juste monumental la manière dont il est capable de bouger, parce que moi, son physique me rend complètement dingue. L'explosivité, la qualité de déplacement entre deux frappes, tu te dis jamais il peut y être et tu as l'impression qu'il y est facile sur des balles où tu ne penses pas qu'il est capable d'y être.
Comme sur
Donc
cette
là,
fameuse balle de match là qui s'ouvre, enfin une des
c'est
balles de
fou.
match qui s'ouvre.
Ah mais c'est... Donc, non, mais... Et sinon, on arrête le podcast. Hein.
Est-ce que ça a pu le marquer, juste pour finir là-dessus, cette défaite? On le voit, effectivement, la tête dans les mains, après la finale perdue face à Djokovic. Ou est-ce que c'est le genre de choses, comme Djokovic après Wimbledon, qui a dit « j'ai mis un jour à m'en remettre », est-ce que ça, c'est oublié et il va aborder l'US Open dans un état d'esprit différent?
Je pense que s'il avait perdu la finale de Wimbledon en 5-7 et qu'il avait perdu là exactement avec le même scénario, ça aurait commencé à faire beaucoup. Là, je pense que on va dire que ça fait un partout. J'ai presque envie de mettre la demi de Roland de côté parce que voilà, on le sait, il est passé à côté, il l'a mal abordé, il l'a mal géré, mais il a très vite appris. Et depuis, ils sont repartis. Enfin, Alcaraz est reparti à zéro. Ils ont gagné une finale chacun. Je pense qu'à choisir, il préfère quand même avoir gagné celle de Wimbledon que celle de Cincinnati. Mais je pense qu'il va le digérer relativement facilement parce qu'il a battu Djokovic en finale à Wimbledon. Et de la même manière que Djoko s'est relevé, je ne pense pas que ça jouera forcément s'ils s'affrontent en finale à l'US. Je peux me tromper, hein, mais c'est comme ça que je le vois.
On a hâte d'y être, en tout cas. Rendez-vous le 10 septembre pour voir si la prophétie va se réaliser. Cette tournée sur dur de préparation à l'US Open a aussi réservé de bonnes surprises, et notamment le retour gagnant d'un joueur français dont tu veux nous parler aujourd'hui. Deep, c'est l'œil de Deep.
Ouais, mais c'était difficile de faire l'impasse sur le bon retour de Gaël Monfils, voilà, qui nous a quand même régalé, personnellement. Moi, j'ai trouvé un Gaël très concerné, faire preuve de maturité sur ce deuxième tournoi, notamment dans des conditions, par exemple, contre Cameron Norrie, qui était difficile avec du vent. Alors, c'était peut-être pas un très bon Norrie, mais peu importe, je crois qu'il faut là vraiment regarder, se focaliser sur ce qu'a produit Gaël et pas forcément ses adversaires, parce que ça serait trop facile à chaque fois de dire oui, mais il a moins bien joué ceci, cela. Moi, je trouve que Gaël a été très bon contre Cameron Norrie dans des conditions très difficiles. Derrière, sur Alex de Minaur, il fallait le sortir, il fallait réussir ce match. Sur le tournoi précédent, il bat à Toronto aussi. Tsitsipas, c'est des victoires sur des joueurs très bien classés. C'est beaucoup de confiance d'engranger, de retrouver très rapidement, je trouve. Et ça, c'est il ne pouvait pas rêver mieux quand même. C'est-à-dire que honnêtement, je suis pas sûr que en allant jouer ces deux tournois, il pouvait se dire je vais réussir à battre des joueurs de ce calibre et les enchaîner. Moi, je ne crois pas. Donc, il aurait probablement signé tout de suite, mais c'est la preuve qu'il a bossé, c'est la preuve qu'il a envie, c'est la preuve qu'il a encore la flamme, c'est la preuve que il a encore des choses à se prouver. Et évidemment, même si voilà, contre Djoko, bah, c'est 19e défaite de suite, le fameux. On en parlait, hein, Laurent, avant. Avant les commentaires, bah, il était à 18, bon, 19, 3-6-2, mais il le
Ça, on ne peut
battra
pas lui en
pas.
vouloir.
Non, et on ne peut pas lui en vouloir. Mais c'était un très bon Gaël qu'on a vu. Et donc voilà, je voulais oui, le mettre à l'honneur parce qu'il a fait des efforts. Et ça s'est vu. Voilà.
Ouais, il n'est pas revenu trop tôt aussi, ça peut être un risque parce qu'il arrive et il est prêt à jouer ses matchs. Il bat Tsitsipas comme tu le dis, demi-nord. Il perd contre Sinner, qui est le futur vainqueur du tournoi à Toronto. Il perd contre Djokovic, qui est le futur vainqueur à Cincinnati. Donc c'est de bon augure pour la suite, pour Gaël.
Les victoires, là, quand même, j'ai la liste, là, donc entre Washington, Toronto et Cincinnati, il bat Bublik, c'est quand même pas mal. Eubanks,
Ah, Eubanks aussi.
Tsitsipas,
Ouais, qui est en pleine
il perd en
progression.
3-7 contre Sinner, hein, ça a été le match le plus dur de
Un très bon
Sinner,
match aussi, bien sûr.
très bon match, et c'est le match le plus dur de Sinner de sa semaine, hein, et derrière il gagne le tournoi. Il bat Norrie, qui est effectivement catastrophique, il bat de Minaur, enfin, ce sont des victoires. Un enchaînement de victoires contre des joueurs qui sont top 15, top 20, comme top 10 même pour Tsitsipas, comme il n'en a pas signé depuis très très longtemps. Donc je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Tu as raison, la meilleure preuve, c'est qu'il avait pris une wildcard à Winston-Salem cette semaine, et il s'est retiré
Il
parce que
pensait
je
pas jouer autant.
à mon avis, non, il ne pensait pas jouer autant. Et puis je pense que bon, faut quand même se rappeler qu'on a eu très peur. À Cincinnati, qu'il se soit blessé assez sérieusement. Donc, c'est le problème aujourd'hui avec Gaël, c'est qu'on sait que physiquement, la prochaine alerte, elle est potentiellement au prochain point. Hein. Donc, il a une sorte d'épée de Damoclès physique au-dessus de sa tête et ça peut lâcher à tout moment. Donc, il a peut-être aussi une sorte de sentiment d'urgence. Tant que ça va, qu'il peut s'exprimer, bah, il en profite, quoi. Il en profite, il donne tout. Donc, je trouve ça vraiment. Très beau ce qu'il a fait cet été. et assez inattendu pour moi. Je le crois toujours capable de faire un coup d'éclat. Mais encore une fois, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que sur trois gros tournois, un 500, deux Masters 1000, il y a une série de victoires, une série de résultats que vraiment je n'attendais pas. Mais c'est aussi son. Il est presque dans son jardin. Hein. J'ai coutume de dire que si toute la saison se passait sur gazon, Adrian Manarino aurait été top 10 de sa carrière. Et si tout le calendrier était en Amérique du Nord, et notamment aux États-Unis, Gaël Monfils aurait fait encore bien plus belle carrière. Il adore jouer dans ce contexte-là. Il s'exprime beaucoup là-bas. Le public américain l'adore. Vraiment, c'est le côté hype autour de Monfils. Elle n'est pas que franco-française. Il est vraiment beaucoup aimé là-bas et encore plus à New York. Donc maintenant, ce qui serait vraiment génial pour lui, c'est d'arriver à faire un bel US Open. Et un bel US Open, ça ne veut pas forcément dire aller en quart ou en demi. Hein. Faut peut-être pas rêver. Évidemment, le tirage au sort
Mais
fera
des belles
beaucoup.
perfs.
Mais enchaîner des matchs et des résultats, là, comme il l'a fait sur ses trois derniers tournois cet été, il est capable de le faire. Alors, avec une réserve, c'est que c'est en 3-7 gagnants et que le potentiel prochain pépin physique, il peut arriver encore plus tôt. Parce que quand il va avoir joué, s'il passe deux tours en 5-7, c'est l'équivalent de quatre matchs dans un tournoi normal. Et on l'a vu à Roland contre Baez où il fait ce premier tour épique et derrière c'est terminé parce qu'il n'est plus en état de jouer. Là, quand même, je pense que physiquement, il a réussi à enchaîner, donc ça va mieux. Il paraît plus costaud, mais il reste fragile quand même, notamment au niveau musculaire.
On l'a vu hein, sur un de ces matchs, là, je ne sais plus si c'était Norrie au demi-nord, mais il y a eu quand même quelques inquiétudes. Hein.
C'est Norrie, je crois. Je crois que c'est son
C'était
premier
contre
match
Norrie. Hein.
à Cincinnati où on croit vraiment qu'il
Oui,
va
ouais.
abandonner. Et on se dit
Exactement,
même
donc
que.
on a eu peur. En fait, maintenant, c'est que ça, hein. C'est la dimension physique. Est-ce que le corps va tenir? Parce qu'il ne faut plus qu'il y ait de pépins. Et en parallèle, c'est exactement ça. Il en a tellement souffert ces derniers temps que là, on sent que il n'a plus le droit. De déconner en fait et donc il est dedans sur à chaque fois qu'il peut rentrer sur le terrain il est à 100% on l'a vu hein, jouer vraiment à fond en faisant le show parce que c'est Gaël mais parce qu'il est aux États-Unis qu'il est très apprécié mais c'est un show sans débordement c'est très juste c'est-à-dire qu'il a raison de chauffer le public de faire quelques coups un peu spectaculaires en revanche pour le reste c'est très sérieux trouve la manière dont il a joué pour Gaël c'est un peu je le précise parce que ce n'est pas tout le temps le cas, là. Et c'est probablement que, ouais, c'est ce que tu dis, Laurent. Je pense qu'il doit sentir que bah, il lui en reste peut-être pas tant que ça et qu'il n'a pas le droit de passer à côté et que c'est peut-être ses plus beaux moments aussi hein, à vivre qui sont à venir, là.
Bah, il en profite, je pense, parce que c'est pas la même chose que quand tu es à 27, 28 ans, que tu es top 10 et que tu as l'ambition et l'envie et le rêve de faire de très très grandes choses. Là, je pense que c'est plus la même chose, c'est plus la même dimension. Là, il y a la notion de plaisir avant que ça s'arrête définitivement. Mais on retrouve un peu ça chez quelqu'un comme Richard Gasquet ou chez des joueurs qui ont vécu des choses plus grandes que nos Français. Quoi. Je pense à Murray ou Wawrinka. C'est incroyable de voir Wawrinka qui pleure après une finale de 250 aujourd'hui quand tu as gagné trois grands chelems, la Coupe Davis. C'est l'envie, c'est le plaisir, je pense. Peut-être que avant tout, ces gens-là, ils ont commencé le tennis quand ils étaient gamins. C'était une passion. Après, ça devient un métier. Tu as des ambitions. Et aujourd'hui, je pense qu'ils retrouvent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu la passion quand ils étaient au top niveau. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, à 36, 37, 38 piges, tu retrouves peut-être quelque chose de plus pur dans la façon de t'éclater sur le court, encore plus quand tu as été autant blessé et que tu as probablement cru que c'était terminé. Parce que je pense que Gaël Monfils, il y a quelques mois, est-ce qu'il se pensait capable de revivre ce qu'il a vécu cet été ou à Roland au premier tour? J'en suis pas sûr. Donc chacun à son échelle vit avec ça et prend peut-être une dernière fois, pour une des dernières fois, vraiment un plaisir très pur, celui de ta passion de jeunesse, quoi. C'est ça qui
Mais
s'exprime sur le
tu te les poses ces questions au début et à la fin, et c'est normal que ce soit au début et à la fin, puisqu'au
Oui, bien
milieu tu
sûr.
vis, en te disant bah, je suis dedans, sans te projeter, parce que la fin est assez loin encore. Et dès que c'est quand elle se rapproche vraiment que tu te la poses la question et que tu en prends conscience de ce plaisir, de cet amour, de cette passion que tu as pour ce que tu as fait pendant toutes ces années, en fait. C'est forcément un moment très fort pour chacun. Et on le voit avec tous ces joueurs qui continuent, qui s'accrochent, parce que c'est pas ne pas vouloir décrocher, c'est parce qu'ils sont vraiment passionnés. Je crois qu'il faut surtout pas le
Ouais,
formuler autrement.
complètement. Et puis, il pourrait s'accrocher en vain pendant des années et qu'il y ait un côté presque un peu.
Verdasco, c'est limite.
Ouais. Un côté un peu, le mot est fort, mais je vais dire pathétique. Mais finalement, tous ces efforts qu'ils font, alors que on pourrait presque leur dire, écoute, vieux, t'as 35, 36 ans, tu mets plus un pied devant l'autre depuis 2 ans, tu vas bientôt jouer avec une canne. Mais pourtant, ils s'acharnent et ça paye. Alors, ça paye à des niveaux différents, mais je trouve que pour
Dans
chacun,
l'émotion.
il y a en plus forcément ouais dans l'émotion, parce que tu vis des trucs forcément dont tu te demandais si tu allais pouvoir les revivre un jour. Et ça passe pas forcément par d'immenses résultats. Hein. Je me souviens que Stan Wawrinka avait donné une interview à Eurosport en début d'année en Australie où il disait mon dernier rêve là c'est de regagner un tournoi. Mais quand je dis regagner un tournoi c'est pas gagner un grand chelem. Il dit moi j'ai un 250, je serais fou, quoi. J'adorerais regagner un 250. Quand tu connais la carrière de Stan Wawrinka, c'est presque incroyable d'entendre ça. Et donc, ils ont besoin de challenge et de revivre des émotions fortes qui peuvent passer par différentes choses. Et je pense que c'est d'une certaine manière ce qu'a vécu Gaël Monfils un petit peu ces 3 dernières semaines.
Bah, on lui souhaite de continuer à vivre ses frissons, hein, à l'image d'un Murray, d'un Wawrinka qui sont plutôt sur la fin que sur le début. Gaël Monfils qui a été salué d'ailleurs par Novak Djokovic, hein, pour son charisme, pour l'ensemble de sa carrière, son talent de jeu aussi. Donc c'est pas rien d'avoir les louanges du patron du tennis mondial. C'est fini, Deep Impact pour cette semaine. Merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, bien sûr. Vous recevrez ainsi les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Dès lundi prochain, donc, soyez au rendez-vous sur Eurosport et sur Eurosport.fr pour suivre l'US Open. On a hâte d'y être. D'ici là, vous pouvez suivre les mondiaux d'athlétisme qui battent leur plein sur nos antennes et sur le site d'Eurosport. Merci à tous et à très vite. Bye bye.
Merci Anne.
Merci Anne. Salut, salut.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.